Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM à la suite des informés d'Adil Farkan. Et oui, qu'on pourra retrouver dès la semaine prochaine à partir de 19h sur l'antenne de Beurre FM, la plus belle des radios. Vendredi 5 janvier 2024, 20h pétante, c'est l'horaire de votre quotidien sportif qui n'est autre que Time Sport. Au menu de cette émission, on va revenir sur quoi? Eh oui, week-end oblige de Coupe de France, premier week-end de janvier. On va parler des rencontres justement de ce fameux week-end. Ça a commencé hein, du côté de Rouen, sans oublier aussi au travers de l'Hexagone, dans cette fameuse Coupe de France édition 2023-2024. Qui remportera cette fameuse Coupe de France? Non pas celle aux grandes oreilles, mais justement cette coupe prestigieuse hein, du ballon rond à travers le pays, et sans oublier aussi les JO 2024. Et oui, on aborde le cas avec les utilisateurs des transports en région parisienne et pas que, et aussi les amoureux de la planète sport. On va s'attarder aussi dans cette émission concernant notre cher ministre de l'Intérieur, monsieur Gérald Darmanin, et justement où, à la suite d'une enquête de Mediapart qui révèle comment l'actuel ministre, je tiens à le citer, hein, selon nos confrères de Mediapart, de l'Intérieur, Gérald Darmanin et son ancien directeur de cabinet, Jérôme Fournel, auraient aidé le Paris Saint-Germain à ne pas payer d'impôts et de taxes sur le transfert d'un certain Neymar, l'international brésilien, durant l'été 2017. Voilà, rien de plus simple. Pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport, le 01 53 48 3000. Sans plus tarder, on va présenter la fine équipe qui m'accompagne ce soir. C'est parti, Gogo Time Sport.
Time Sport. Time Sport. Il est pour parler.
Allez, ce soir, on est avec notre journaliste consultante Alison. Bonsoir, Alison.
Bonsoir à tous.
Et ça fait plaisir, la gente féminine avec nous ce soir.
Bah,
vraiment, Alison. On attendait pas le vendredi soir, mais bon.
Ouais, c'est vrai.
On aimerait t'avoir le mercredi soir, il me disait ça, Vivien, qui est là aussi ce soir.
On aimerait l'avoir tous les soirs, même.
Ouais, ouais, tous les soirs.
J'aimerais être là tous les soirs, malheureusement.
Arrête, toi aussi, mais tu t'arrêtes.
Pour les raisons professionnelles. Moi, je parle de travail professionnel.
Bien sûr, on est tous professionnels ici. Je tiens à souhaiter à tous les auditeurs et les auditrices une bonne et merveilleuse année.
Et nous aussi, Alison.
Et surtout, la santé.
La santé, Alison, pour
toi.
Et toute la famille.
Merci.
C'est ça, Alison. Un grand merci. On est en compagnie. Voilà, vous l'avez pu, ben, on l'a reconnu. C'est qui? C'est Vivien. Vivien, bonsoir.
Bonsoir, Bilal. Bonsoir à tous les auditeurs. Ben, non, en cette soirée de Coupe de France, je vais avoir une pensée pour Yanis, de Quevilly. Son équipe est menée 1-0. Donc voilà, malheureusement.
C'est vrai.
Quand j'explique à ce jeune adolescent que c'est encore un club sympathique dans province, mais qui a encore beaucoup d'étapes à passer pour être vraiment un club bien structuré. Donc voilà, c'est une pensée pour cette région.
Ça joue bien.
Cette belle région.
Ouais, la belle région que Yacine connaît tant. Yacine, vous allez pour cette première avec nous sur l'antenne de Beurre FM. Bonsoir Yacine, comment ça va?
Cette première.
Ouais, cette première de l'année 2024.
Il y en a eu des premières depuis.
Ouais, il y en a eu, bien sûr. Yacine est le suivi depuis le début de l'aventure.
Pour moi, c'est pas encore la nouvelle année.
Le nouvel an berbère.
C'est ça, Yacine. Moi, j'attends le...
C'est ça, Temeser.
Voilà, le Inayer, comme on appelle ça.
Tu fais bien de le rappeler.
Donc, je ne suis pas encore à la nouvelle année.
Il est bon.
Cher Bilal.
On a aussi le nouvel an chinois. Il n'est pas encore là. Je crois que ce week-end, c'est le nouvel an ou la semaine prochaine.
Avec tous les respects que je dois au chinois, je ne le suis pas. Donc, je ne sais pas que c'est comment. Moi, je suis berbère. C'est le 11 janvier.
Berbère aussi, de l'autre côté de la Méditerranée, que ce soit en Algérie, en Tunisie ou au Maroc, en tout cas, on pense à eux. Le 12 janvier, ça c'est Foudil, hein. Foudil qui aimerait aussi enchaîner avec nous concernant le football africain et pas que. Dès la semaine prochaine, ça c'est premier, Foudil. Tariq, il est avec nous. Bonsoir Tariq.
Bonsoir.
Comment
tout
ça
le monde.
Va Tariq?
Ça va très bien. Très heureux d'être autour de la table fin de semaine et avant ce beau week-end, bien entouré.
Oui.
Et surtout, quand il y a Alison, moi je remarque que ça sent différemment. Il y a un très très bon parfum.
Merci pour les autres. Et pourtant, ce parfum vient bien.
Ça sent quand même le baiser en général.
Tariq aussi.
On est sous le charme.
Il a raison de dire. Peut-être qu'il a un problème au niveau de ses narines.
Tu peux pas dire ça.
C'est qu'il y a un problème.
Mais non, on est toujours bien parfumé, notamment avec Fala aussi, à qui nous pensons ce soir. Un petit clin d'œil à Neige qui nous accompagne dans ce studio aussi ce soir. Sans plus tarder, Yacine, c'est la Coupe de France ce week-end. Eh oui, la Coupe de France avec ses fameux clubs. Faut-il la délaisser? Faut-il la jouer à fond? Le Paris Saint-Germain, c'est la finesse, c'est la tranquillité. Mais par exemple, l'Olympique de Marseille ou encore des clubs comme Lyon, l'OGC Nice, la joueront, mais va savoir, à fond ou pas? Bah, ah, c'est la question qui se pose.
Bah, je pense que tous les clubs français prennent au sérieux la Coupe de France, parce que déjà, c'est le fait de la gagner, ça ouvre les portes de jouer l'Europa League. Donc, ça m'étonnerait que. Et puis, il y a beaucoup d'argent derrière à gagner, surtout pour les petits clubs. Chaque tour gagné, ça leur fait quand même une très belle somme. Bah, ce soir, moi, mes pensées vont à un grand club français.
Alors,
le Racing Club de France, aujourd'hui, il s'appelle comme ça.
Ouais.
Voilà, depuis 1994, ils ne se sont pas qualifiés au 32e de finale. Là, ce soir, ils jouent contre. Bah, ils sont en train de jouer contre Chamblay. On espère que ce grand club va renaître de ses cendres. Voilà, c'est toujours un plaisir de voir des petits poussés comme ça. Créer la surprise face à des ténors de championnat, du championnat français. Tout à l'heure, tu as cité Cuvier.
Ouais.
Et dommage pour eux, ils jouent ce soir, même s'ils sont menés, ils ont perdu quand même un joueur qui vient de signer en Serie A italienne, leur meilleur joueur, à Frosinone. Donc, voilà.
En Italie.
Toujours est-il que c'est bien. Moi, j'aime bien la Coupe de France.
Ouais, tout le monde aime cette Coupe de France, justement. Beaucoup de surprises, Alisson, Tariq, hein, durant cette Coupe de France, c'est vrai?
Effectivement, il y a beaucoup de surprises. Des matchs à élimination directe. Des matchs à élimination directe. Il y a toujours une petite équipe qui réussit, du moins, à faire un exploit, d'aller en quart ou en demi. Mais je pense pas que ce soit une Coupe super mise en avant, déjà, quand on entend un petit peu les vestiaires, quand on entend un petit peu les joueurs. Ils la mettent un petit peu de côté. C'est pas la coupe primordiale qu'ils veulent à tout prix aller chercher. Et je pense que du moins en France, la Coupe de France n'a pas la même saveur que par exemple une coupe locale comme en Angleterre par exemple, où là où on voit tout le temps des grosses confrontations directement, ou là où on sait que on doit aller de chercher cette coupe parce que ça donne un petit peu en quelque sorte le ton de la saison. Quelles équipes vont être dans le top 3, etc. Généralement, l'équipe qui la gagne, c'est l'équipe soit qui va chercher le championnat ou soit du moins qui se classe bien en première ligue. Et en Espagne aussi, cette Coupe du Roi a une toute autre saveur, pardon. Je pense qu'en France, c'est pas la coupe majeure où les joueurs se disent c'est un objectif en début de saison, la Coupe de France. Non, je pense que c'est d'abord la Ligue 1, aller chercher peut-être les trois premières places pour les gros clubs et ensuite voir qui est qualifié en Ligue des Champions, qui est qualifié du moins en Europe et faire une belle prestation en Europe.
Ouais.
Moi je suis pas trop d'accord parce que.
Allez, pourquoi?
Je trouve que ça reste la coupe la plus l'historique, tu vois, et surtout depuis la disparition de la Coupe de la Ligue, je crois que ça fait deux ou trois saisons. Je pense que là c'est vraiment une compétition, une coupe qui est très importante pour les clubs et surtout pour des clubs pour des clubs qui sont par exemple mal classés, qui sont un petit peu qui font une saison un petit peu moyenne en Ligue 1. J'ai envie de parler peut-être de Lyon. Je pense que ça sera un objectif de leur part d'aller chercher cette coupe. Et quand je regarde même les compositions d'équipe, en général, je trouve pas que, par exemple, ils mettent vraiment des équipes bis, des équipes.
Ça
la joue à fond. Ouais. Et je trouve qu'elle est pas du tout galvaudée. Après, si elle est galvaudée par certaines personnes, c'est plus par les médias. Quand je vois que maintenant elle est diffusée sur Bein Sport, chaîne payante, plutôt que comme à l'époque, on pouvait voir tous les matchs sur France Télévisions, sur le service public, ça me pose plus problème. Mais côté des clubs, côté des joueurs, etc., je pense pas que ça la galvaude autant. Autant que ça, et ça reste, pour moi, ça reste une très belle compétition.
Il n'a pas tort.
Ouais, Tariq n'a pas tort.
La Coupe de France souffre énormément d'un support médiatique au jour d'aujourd'hui avec la multiplication des compétitions, surtout à l'international. Aujourd'hui, il y a plein de compétitions.
Avec la Coupe d'Afrique.
Noyé un peu dans la masse. Et le fait aussi de perdre ce diffuseur historique qui est France Télévisions. Aujourd'hui, a diminué un peu de la valeur de la compétition, mais pas du tout au niveau de, parce que je pense que beaucoup de clubs en France, soit en R1, R2, R3, N3, N2, N1, ils attendent avec impatience ces matchs de Coupe de France parce que ça leur permet de se mettre en valeur déjà. Et secondo, et comme je l'avais mentionné au départ, à chaque tour gagné, à chaque tour passé, il y a un pactole qui tombe. Et pour une équipe de R1, R2, quand tu arrives là aujourd'hui, le Racing Club de France, s'il passe au 32e de finale, ils vont avoir quand même un sacré pactole qui va leur promettre de voir l'avenir. C'est le même cas pour Chamblay. Donc, non, moi je trouve ça reste une compétition quand même historique. Voilà, parce que ça a fait rêver plein de gosses. Donc après, au jour d'aujourd'hui, il y a tellement de compétitions qu'on a.
C'est ça, c'est historique, mais de seconde ouais, zone, on a l'impression aujourd'hui, quand on regarde le calendrier, que la Coupe de France passe tellement en second qu'on est obligé de la squeezer entre deux matchs, entre des matchs internationaux, des matchs d'Europe, de trouver machin et tout. Donc c'est là, à mon sens, et c'est justement mon argumentaire pour dire que ça passe après. On n'en a que faire maintenant de cette Coupe de France. Et vous l'avez dit, Tarek et Yacine, justement, quand on perd le diffuseur historique qu'est le service public de l'État en France pour la Coupe de France, donc la Coupe nationale, ça veut dire quelque chose. Non, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que finalement, on n'a pas un grand intérêt. Ça veut dire qu'on ne gagne pas de l'argent en diffusant la Coupe de France. Donc finalement, cette Coupe de France, elle n'a pas grand intérêt. Donc c'est de là que je dis que, à mon sens, elle est plus aussi. Alors, je garde la valeur prestigieuse, la valeur symbolique et historique, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus une coupe majeure qui fait rêver.
C'est une coupe qui est passée au second plan, Vivien. C'est un peu ça.
Le traitement de la Coupe de France, moi je trouve déjà c'est un peu à l'image du sport en France, c'est-à-dire on a l'impression qu'on a des compétitions mais on sait pas trop quoi en faire, que ce soit au niveau du ministère, des diffuseurs, de la ligue, on est un petit peu perdu. Et puis alors plus que le symbole historique, c'est la première compétition qui existe, donc ça a plus de 100 ans, ça même existait avant la Ligue 1, faut rappeler aux auditeurs. Moi ce que j'aime bien voir en Coupe de France, c'est au niveau des 32e, c'est que parfois il y a même parfois ce qu'on appelle des jeunes parfois de nos quartiers qui sont pas en Coupe de France ou ces équipes franciliennes. Souvent au niveau des 32e, moi par exemple, je regarde beaucoup quelles sont les équipes franciliennes encore qualifiées. Par exemple le tour d'avant, le Restart est sorti, je trouve à mon plus grand regret, parce que je trouvais que c'était vraiment peut-être l'année pour Habib Bey et ses hommes. Donc sur le terrain, il peut se passer beaucoup de choses.
Là où tu parles du Red Star, là où je vais rejoindre les paroles de.
C'est quoi
de, parce qu'Habib Bey, il est leader en national.
Le
Red Star ne peut plus se permettre de rester longtemps
en national,
à l'abri, on va dire, de la lumière. Donc ils sont obligés de parce que ça fait sa troisième année qu'il est à la tête du club. Donc je pense qu'ils l'ont pas vraiment peut-être pris au sérieux, donc ça pouvait leur
et surtout ils ont comme un 7-8 points d'avance en national. Donc justement le pire c'est que Yacine a raison, mais je trouve ça incompréhensible quand t'as 7 points d'avance et que justement Yacine a bien rappelé les apports financiers à chaque tour. T'es Habib Bey, t'es le Red Star.
Ils sont consistants. Hein.
Consistants. Après, puis en termes de vitrine, si tu veux monter, on va dire le Red Star va probablement monter en Ligue 2, donc tu construis déjà pour l'an prochain. Quelle meilleure vitrine tu peux avoir qu'à la Coupe de France?
Justement, c'est d'assurer son parcours pour monter en Ligue 2.
C'est pas d'aller
batailler et lâcher ses forces dans une compétition qu'on sait pertinemment que tu ne vas pas gagner.
Il y a trop de calcul dedans.
Ouais, mais si tu perds tout un championnat à cause d'un tour d'un Coupe de France, moi, ça veut dire, désolé, il y a soit un problème de préparation physique, soit il y a un problème, parce qu'en France je trouve qu'on est les champions du monde de la récupération, c'est-à-dire il faut jamais se fatiguer, il faut jamais jouer le 26,
c'est qu'il faut prioriser. L'objectif atteignable, c'est la montée en Ligue 2, parce qu'on a de l'avance.
En Angleterre, on arrive à jouer la FA Cup, on arrive à jouer deux coupes.
Toutes les compétitions. Comme le Red Star qui joue en national ou même d'autres clubs, il y a un truc, pour moi, qui ressort pour la Coupe de France, c'est les émotions pour ces clubs-là et pour ces joueurs-là. Je pense que avant de se dire que c'est une priorité de gagner cette Coupe de France-là, il y a surtout de faire des épopées.
Non, de faire un parcours.
De faire un parcours en Coupe de France. Et je pense que c'est vraiment là qui, pour ces clubs-là, c'est ce qui est vraiment important, de faire découvrir aussi des joueurs. On a découvert énormément de...
Pas pour Habib Bey, ce soit son objectif.
Ouais, mais aujourd'hui,
non, j'ai pas parlé d'objectif, j'ai parlé d'émotion.
La consommation du grand public, ce qu'on appelle aujourd'hui la VOD. Les gens, avant, il y avait la télé. On regardait les images à la télé, donc l'image de la Coupe de France, ça nous mettait plein les yeux. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Les gens, ils ont des téléphones, ils ont des ordinateurs, ils regardent la Coupe d'Angleterre, la Coupe d'Espagne, le championnat d'Argentine, le championnat de Bolivie, le championnat de Chine, de Taïwan. À un moment donné, tu te perds. Tu sais même plus qu'est-ce que tu vois. Tu ouvres
ça concerne le sport en général. Ouais, ça concerne pas que la Coupe de France.
Justement, c'est ça ce qui a fait que la Coupe de France est noyée dans la masse. C'est n'est plus le cas où elle faisait la une. C'était l'ouverture 32e de finale de la Coupe de France, c'était l'ouverture de France 3, France 3, des JT. Aujourd'hui c'est un événement comme un autre. Voilà, donc c'est la
saison dernière quand Marseille se fait éliminer contre Annecy, on en a bien parlé.
Se fait sortir ce week-end là aussi,
on en parlera. C'est la magie de l'équipe de France, c'est la magie de la Coupe de France. Et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut voir. Moi quand on m'a dit que Marseille était mené, j'étais le premier à chercher. De base, j'allais pas regarder ce match-là, et j'étais le premier à essayer de regarder ce match-là parce que c'est cette magie de la Coupe de France que nous on veut voir, que les passionnés de football veulent voir, et c'est
pour
ça.
De toute façon, la Ligue, leur fédération, le ministère de la Justice et des Sports, tout le monde devrait trouver une solution pour remettre cette compétition à la une. Ils sont obligés.
Faut qu'on trouve des solutions pour beaucoup de choses, Yassine. Ah,
c'est pour
les transports. Le problème, c'est que le sport, il y a beaucoup de solutions.
On n'a déjà pas de solution pour cet été, Yassine. Ouais, tu veux refaire le monde encore dans
Déjà, on va acquérir le monde. On n'est pas sûr que les gens vont pouvoir circuler dans Paris.
Cet été, c'est encore loin. Donc, on se concentre déjà.
Ah oui, c'est sûr. Déjà, le mois de janvier va être très, très long.
Et en plus, même le Stade de France, il est à vendre. Est-ce que la Coupe de France va se jouer dans les années futures sur le Stade de France? Donc tout ça, c'est
par des princes.
Là, je pense l'argent prend le dessus sur le sportif. Ouais. Et là, ça va. D'ailleurs, tout à l'heure, le dossier Neymar. Ça va être chaud.
On va voir sur le décès Neymar. On rappelle que Rafael Nadal aussi s'est incliné du côté de face à Jordan Thompson en quart de finale du tournoi ATP 250 du circuit ATP. C'est un 250 du côté de Brisbane en Afrique du Sud. On va marquer d'une courte pause et on revient rapidement avec encore le football français et aussi le club de la capitale qui est le Paris Saint-Germain.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h18, ce vendredi 5 janvier 2024, début d'année. C'est la première pour Yacine de cette année 2024, aussi pour Alison. On était hier avec Vivien, sans oublier aussi Tariq qui s'est présent. Un petit clin d'œil à Neige, voilà, qui est en direct sur les réseaux sociaux. Aussi un clin d'œil à Fala qui n'était pas avec nous ce soir. Vas-y Yacine.
Il paraît que mercredi ici, c'était mouvementé.
Mercredi ici. C'était mouvementé.
Sur les réseaux sociaux, il y avait le passage d'une...
Alibi Montana. Oui, non.
C'est pas Alibi Montana. C'est Numi Diabézoul.
Numi Diabézoul, bien sûr.
Ah oui, elle a cartonné,
avec DJ Kim, c'est ça.
Le
dans
téléphone n'a pas arrêté de sonner, tout le
dans
monde.
Dans Happy Bird, c'est vrai. Oui, média très connu.
C'est incroyable. Hein.
Oui, très
comme
incroyable.
Quoi, l'Algérie, c'est vendeur, Bilal.
Oui, c'est très vendeur, tout comme toi. Tu es très vendeur. Hein. Oui, on aimerait te vendre aussi, Yacine. Hein.
Ah ben voilà.
Pas sûr.
Je suis aussi vendeur qu'elle. En tout cas, ça fait parler tout le monde.
C'est vrai. Beaucoup de personnes.
Médiatiquement, ça a été un coup vraiment réussi.
Vraiment, voilà. Kim a bien réussi avec Happy Beurre et toute son équipe qu'on peut retrouver chaque matin sur l'antenne de Beurre FM, 7h, 10h, voilà, dans la matinale de Beurre FM, votre radio préférée. Place au second dossier de cette émission. Attention.
Le sujet des sociaux.
Je m'adresse à qui, là? Justement, je m'adresse à vous, les auditeurs, les auditrices, pour réagir au 01 53 48 3000. Ah oui, toi, c'est comme ça. Au lieu de parler, toi, tu donnes la priorité à la demoiselle, qui est Alison. Mais bien sûr, on va voir. Attention, parce que...
Déjà, je te laisse sur introduction.
Ah, bien sûr.
Mais je vais bien, Vivien. Attends, il est galant, ils sont de la même origine, ils sont tous les deux danois. Le problème, voilà.
N'oubliez pas que Nadia Nadim est danoise aussi. C'est une joueuse du PSG qui est médecin, etc.
Darmanin a-t-il aidé justement le PSG à contourner les impôts sur le transfert de Neymar en 2017? Voilà, comme on a pu le voir, ce petit chapeau chez nos confrères d'RMC, une enquête de Mediapart, comme on le révélait nous en introduction de cette émission, révèle comment l'actuel ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et son ancien directeur de cabinet Jérôme Fournel auraient aidé le Paris Saint-Germain à ne pas payer d'impôts et de taxes sur le transfert d'un certain Neymar à l'été 2017. Alison, là aussi, on a pas mal de choses depuis cet après-midi sur les réseaux sociaux. Là, voilà, c'est la politique peut-être qui s'entremêle avec le football et encore une fois, malheureusement, avec le Paris Saint-Germain. On en veut beaucoup, Paris Saint-Germain, on a l'impression. Hein. De l'autre côté du tarmac, près du Bourget, c'est ça? Moussa Nasser Al-Khalifi, le président du Paris Saint-Germain. Et là, cette fois-ci, c'est assez fou. Concernant notre ministre de l'Intérieur, M. Darmanin.
Excuse-moi, il faut mesurer ses paroles.
Alors vas-y, elles sont toutes mesurées.
Ici, c'est une enquête qui est sortie
Révélée par nos confrères de Mediapart.
Par un journal, par des journalistes d'investigation.
Ouais.
Donc au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui en est. Mais moi, la question que je me pose, apparemment, ils sont au courant depuis 2017. Et là, on est en 2024, ça fait pratiquement 7 ans. Pourquoi avoir attendu tout ce temps-là pour sortir juste cette information à ce moment-là. Est-ce qu'à des envies électorales ou à, est-ce que bah, c'est une enquête, certes, mais tant que la justice n'a pas tranché, on peut pas dire si c'est vrai ou pas.
Ouais. Bien sûr.
Donc il faut rester mesuré dans ses paroles.
On est mesuré, justement, ce soir. Mais voilà, on voit encore que le Paris Saint-Germain, eh ben, selon nos confrères de Mediapart, eh ben, oui. Et
encore. Tu veux dire que c'est, ils sont au courant depuis 2017 oui. L'enquête ou Mediapart, tu veux dire?
Le Mediapart, oui.
Mediapart. Après, oui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une petite cabale en ce moment contre surtout Nasser El Khelaïfi et contre le Paris Saint-Germain. De ce journal.
Mais cabale de Mediapart ?
Ouais, oui, oui, parce qu'ils sortent pas mal de fois des articles à charge sur Nasser El Khelaïfi. Après, à tort ou à raison, je ne sais pas, moi j'attends.
Souvent, quand Mediapart sort une information, c'est que vérifier à la source,
ça s'avère pas mal.
Ils ne peuvent pas jouer avec leur.
Je pense que pour répondre à ta question, Yacine, je pense que c'est pour ça que ça a pris autant de temps, c'est pour vérifier, pour être sûr, parce que Mediapart nos confrères de Mediapart sortent rarement des gros dossiers sans avoir vérifié, sans justement, tu l'as dit, sans avoir investigué. Et les fake news, en tout cas, ça ne colle pas avec les journalistes de Mediapart.
Et qui attaque
mais
le PSG,
au-delà, c'est ça. Au-delà
de ça, attaque le Qatar. Hein,
Il y a beaucoup de flou financier et beaucoup de flou sur l'organisation même du Paris Saint-Germain. On sait déjà que le Paris Saint-Germain est tenu par un État. Clairement,
oui.
Qui est le Qatar, que ça fait beaucoup parler, que à l'intérieur même du Paris Saint-Germain, on dit, et là je mets des guillemets, qu'il y aurait une sorte de mafia, c'est-à-dire, je m'explique, donc le Qatar bénéficierait de ses propres renseignements généraux, que le Qatar bénéficierait de sa propre sécurité. Donc déjà, on sait que l'organigramme du Paris Saint-Germain est différent des autres, de ceux de Ligue 1. Donc forcément, on a envie de mettre le dedans, on a envie de savoir comment ça se passe. Même quand le Paris Saint-Germain est venu se proposer pour racheter le Qatar, on dirait donc que Nicolas Sarkozy à l'époque aurait favorisé ou aidé du moins l'accession des Qataris au Paris Saint-Germain. Dans quel terme ? Je ne sais pas, je n'y étais pas, mais potentiellement c'est quelque chose qui se serait passé. Donc la politique, le Paris Saint-Germain, c'est pas inconnu jusqu'à présent. Et cette enquête veut dire quoi ? Veut dire tout simplement que il y aurait eu un arrangement entre Neymar et le Paris Saint-Germain pour son transfert. Et on l'a entendu, hein, c'est pas la première fois, vous le savez, autour de cette table, des rumeurs disent que je ne suis pas là pour avérer les faits, mais qu'il y a eu un emborglio autour de son transfert. On sait pas dans quel terme ça s'est passé. On sait qu'il y a eu énormément d'argent, mais que le Paris Saint-Germain ne pouvait pas sortir directement cet argent-là parce que problème fiscal il y avait. Donc moi, ça ne me surprend pas qu'il y ait eu cette enquête de Mediapart. J'attends juste d'avoir le fin mot de l'histoire pour que ce soit de concret, mais à l'heure actuelle, dire ah ben non, je tombe des nues, c'est pas vrai, le Paris Saint-Germain n'est pas dans la politique française ou du moins ne discute pas avec les politiciens français, ça serait faux de le dire.
Bien sûr. Ouais, Tariq.
Moi, sur ce que tu dis, il y a pas de souci, je remets pas en cause le travail de Mediapart ou autre, mais moi j'ai l'impression que ça fait 10 ans depuis que le Qatar est là,
après les rênes,
qu'on entend des choses là, que ça soit par rapport à leur arrivée, leur lien avec Nicolas Sarkozy, même avec Michel Platini, on se souvient qu'à l'époque aussi il avait facilité certaines choses, mais depuis tout ce temps en fait, aucune condamnation. Donc moi je veux bien qu'à chaque fois ils fassent des enquêtes, ils sortent des grands articles avec là on lit Gérald Darmanin, donc ça nous tape à l'œil directement, mais quand est-ce qu'il va y avoir des condamnations? Parce que moi ça fait des années que je lis des choses comme ça, j'entends des choses comme ça, mais il n'y a jamais de condamnation. Donc moi je veux bien, j'attends, et c'est peut-être encore quelque chose qui va faire les gros titres, mais pour au final voilà, derrière, n'avoir aucune condamnation ou qu'il ne soit pas inquiété.
Il faut savoir, quand on a parlé du Qatar avec insistance à un moment donné sur l'organisation de la Coupe du Monde, qu'ils ont bénéficié d'un coup de pouce de beaucoup de monde, ça c'est des choses qui se passent en dehors de la France. Aujourd'hui, c'est un dossier qui sort concernant la chose la plus importante en France. On peut jouer avec tout, mais pas avec ses impôts. Là, l'URSSAF, donc là, je pense que la justice française qui est appelée à enquêter concernant ce dossier. Mais comme tu viens de le souligner, tant qu'il n'y a pas de condamnation, donc s'il n'y a pas de condamnation, donc il n'y a pas de fait avéré. Voilà, ça va rester uniquement une enquête qui a voulu peut-être faire. Voilà, donc on attend.
Là, ce que je vois.
Parce que si la justice, elle bouge, si les faits sont avérés, je pense que beaucoup de têtes vont tomber.
Mais c'est très grave.
Là, ça serait assez faux.
Ce que je comprends de l'article, c'est plus un conflit d'intérêts qu'autre chose, mais il me semble pas qu'il y ait de réelle fraude ou je vois que c'est un arrangement, c'est quelque chose qui...
Non, c'est des fraudes.
Non, ce serait une fraude fiscale donc que Gérard Darmanin ait facilité le transfert de Neymar et que du coup il y ait des impôts qui se soient et des intérêts qui soient passés à la trappe.
Puis avant de passer la parole à Jouba, c'est la preuve que l'argent ne fait pas le bonheur, puisque avec tout ça il n'aurait pas pu ramener la Ligue des Champions, donc
ça prouverait surtout qu'il y a des Français qui galèrent à payer des impôts ou pas, et qu'à côté certains riches on leur donne des passe-droits.
Non, il y a quelque chose qui est avéré, c'est que la fraude fiscale en France, on parle souvent de crise, il faut serrer la ceinture, etc. La fraude fiscale, ça représente des milliards chaque année de pertes, et c'est la source numéro un de gaspillage de privilégiés qui ont certains passe-droits, on va dire. Donc ça, c'est, il faut se rendre compte. Pour les auditeurs, il faut se rendre compte de la gravité de ce sujet-là. Pour moi, c'est très grave parce que ça nous impacte, nous, au quotidien.
Bien sûr. Le 01 53 48 3000, on est en compagnie de Jouba, notre journaliste consultant. Bonsoir,
Jouba.
Et
la fraude à La Réunion, malheureusement, aussi.
Il n'y a pas que La Réunion, dans le monde entier.
Bonsoir, les amis.
Bonsoir.
Bonsoir à vous tous. Écoutez, quelle fut ma surprise. Visiblement, il y a encore des révélations de nos confrères de Mediapart. Je tiens quand même à souligner, parce qu'il y a eu des doutes. Mediapart, c'est un média très, 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 très sérieux. On connaît Edouard Plenel, il est venu à la radio plusieurs fois. On a bossé aussi avec Edouard Plenel à La Réunion. Donc, c'est du vrai journalisme.
Il y a conflit d'intérêts, si tu dis ça.
Loin de toutes les pressions des milliardaires qui malheureusement exercent un effet néfaste, malheureusement, dans les médias aujourd'hui en France. Mediapart est totalement indépendant et financé par ses lecteurs. J'ai un petit retour, faut-il, je ne sais pas si...
Ouais, alors... Voilà, mais ça va, c'est bon.
Au lieu de tout balancer comme ça à l'antenne, hein, c'est...
Non, t'entends bien.
C'est un peu de secret pour les auditeurs. C'est...
En toute transparence, hein.
Voilà, en tout cas, Monsieur Darmanin, une nouvelle fois, qui fait parler de lui. On pensait que le football, il s'y connaissait pas, hein. Vu ses accusations graves et diffamantes à l'égard de Karim Benzema, on s'en souvient, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Sans étayer de quelconque preuve, il l'a associé aux frères musulmans, etc. Donc voilà, on pensait qu'il n'y connaissait rien, et maintenant on découvrerait, grâce aux révélations de Mediapart, que Gérald Darmanin est mouillé donc dans des facilitations éventuelles de fraude fiscale pour le PSG. En plus, pour un joueur qui n'a rien apporté au club, en l'occurrence Neymar, qui est venu via 222 millions d'euros, on se rappelle la clause qui avait été payée au Barça à l'époque. Gérald Darmanin, voilà, et Emmanuel Macron, c'est les champions de l'instrumentalisation du foot et de la politisation.
Jouba,
du foot.
Jouba, et je dois le rappeler.
Quand on l'a vu caresser l'épaule de Mbappé, quand on voit toute l'instrumentalisation et toute la politisation du foot qui est induite par la politique d'Emmanuel Macron. Voilà, je pense que Emmanuel Macron peut être au courant de certaines choses. Darmanin n'est pas président, donc il doit avoir des comptes à rendre à Emmanuel Macron. Moi, je pense que au bout d'un moment, il y en a marre, quoi. Il y en a marre de cette république des privilégiés. C'est copinage tout le temps. On sait que le Qatar est aussi associé au Qatar Gate, on se rappelle, via des mallettes d'argent qui ont été retrouvées notamment auprès de députés européens, voilà, dans l'attribution de la Coupe du Monde et autres. On sait qu'il y a des liens très forts entre l'Europe et le Qatar dans un jeu géopolitique évident qui a commencé sous Sarkozy. Donc voilà, en fait, au bout d'un moment, il faudra que toute cette mascarade s'arrête, quoi. C'est-à-dire que on en a marre d'avoir des privilégiés, d'avoir des ouais, c'est insupportable, quoi. C'est insupportable.
Ça touche le Paris Saint-Germain, Jouba. On tient à le rappeler quand même, hein, le champion de France en titre.
Les valeurs de la République française, quoi.
Ouais.
Que ça s'arrête, quoi. On est en France, on n'est pas dans des pays où la magouille est tolérée.
Ouais.
S'il vous plaît, arrêtez.
Donc un pays, la magouille est tolérée, Jouba.
Ouais. Toute la somme qui a été révélée par Darmanin, par Mediapart.
Le confrère de Mediapart.
Énormément, et notamment ce qui aurait pu échapper au fisc français, ça représente ce que l'État débourse pour accueillir les femmes qui sont victimes de violences par leur époux, etc. Donc voilà, enfin. C'est insupportable, quoi.
Insupportable, Jouba. On va essayer de revenir vers toi. On va prendre l'auditeur qui n'est autre que Farid au 01 53 48 3000. Bonsoir, Farid.
Oui, bonsoir, Bilal. Bonsoir à tous.
On vous écoute, Farid. Concernant le Paris Saint-Germain, mais pas que aussi, hein. Jouba, oui, il a eu son coup de gueule, hein.
Oui, complètement. Mais moi, je partage tout à fait ses réflexions. Moi, aujourd'hui, franchement, moi, le PSG, je vous avoue franchement, je regarde très rarement leurs matchs. Je trouve que c'est un club qui a perdu son âme depuis les épopées, que ce soit à l'époque de Rai, de Pauleta, de Ginola, de voilà, Luis Fernandez, Moustapha Dalev. Aujourd'hui, on parle du PSG, on pense que l'argent. Voilà, faut pas oublier quand même qu'ils avaient recruté Mbappé à plus de 180 millions.
Ouais.
La foulée Neymar à 220.
Aussi.
Donc ça faisait 400 déjà. Et on se posait des questions d'où sortait l'argent. Alors, on nous expliquait que c'était un État qui était propriétaire.
Oui.
Et ça, c'est une nouveauté. C'est du jamais vu. Et je pense qu'il aurait fallu l'interdire, tout simplement.
On l'a vu dans d'autres championnats européens, Farid aussi. Farid, hein. Il n'y a pas qu'en France, Farid.
C'est le football,
le nouveau football.
Le football business. Le prix des transferts dont tu parles, comme Mbappé, oui, ou comme Neymar, qui est le plus gros transfert de l'histoire. Mais ça reste le football, oui, le football en général. Les transferts à plus de 100 millions d'euros, ça arrive même là, pendant les mercatos d'hiver. Chaque mercato, ça arrive. Dans ces cas-là, c'est pour avoir pour se mettre en concurrence avec ces gros clubs européens. Le Paris Saint-Germain était obligé de s'aligner en termes de transferts et en termes économiques face à ces clubs-là. Quand c'était le Real Madrid, le Barça, l'AC Milan qui faisaient ça, dans les années 2000, personne ne se plaignait de ça. On disait que c'était des gros clubs et on n'allait pas te dire que économiquement ils te tuaient le football ou autre. Mais malheureusement, dès que c'est le Paris Saint-Germain, on le montre du doigt.
Le Paris Saint-Germain.
Voilà, parce que c'est les méchants Qataris qui arrivent avec tout leur argent. Mais je peux te dire la même chose aussi pour le Chelsea au début des années 2000. Berlusconi, c'était la même chose. Des clubs comme ça et des histoires comme ça, je peux t'en sortir plein. Mais j'ai l'impression que dès que ça vise les Qataris, et ben c'est pas bon, c'est les méchants.
Ouais. Et puis excusez-moi,
non, pas du tout, c'est pas question d'être méchant, pas, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur argent, il n'y a pas de souci. C'est comment fonctionne ce club aujourd'hui avec un État qui est quand même propriétaire, et aujourd'hui on se plaint aujourd'hui qu'il y a des conflits d'intérêts avec la politique française. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait des histoires comme ça, des magouilles comme ça. Là, on ne traite pas avec un propriétaire, on traite avec un pays où il y a d'autres intérêts qui, au-delà du PSG. Et aujourd'hui, moi, je vous dis franchement, j'ai pas envie que le Paris Saint-Germain soit champion pendant 40 ans.
Ah, carrément. Ah oui.
Là, ils n'ont pas tué le club, ils ont tué la Ligue 1.
Ils ont quand même aussi aidé la Ligue 1.
Attendez, excusez-moi, vous parlez d'un transfert à tous les clubs européens. J'ai pas souvenir qu'un club ait acheté un joueur à 220 millions. Et là, je parlais de l'addition.
Ouais.
180 plus 220. Là, on parle de Guimaraes à 115 millions. Et on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont prêtés actuellement à Paris. Ils n'arrivent même plus à revendre.
Mais pourquoi ça ne te pose pas problème quand c'est United qui le fait? Pourquoi ça ne pose pas problème quand c'est Chelsea qui le fait? Pourquoi ça ne te pose pas de problème quand, par exemple, Lyon écrasait la Ligue 1 dans les années 2000 et économiquement, ils écrasaient toute la Ligue 1. Personne ne pouvait les regarder dans les yeux. Pourquoi on ne les montrait pas du doigt? Et quand tu dis que le Paris Saint-Germain, bah, il casse un petit peu le niveau de la Ligue 1, moi, je te dirais plus le contraire. Je pense que sans le Paris Saint-Germain, la Ligue 1 serait d'un tout autre niveau. Et totalement. Je pense qu'on serait, on serait vraiment.
Déjà, les salaires des joueurs, ils vont baisser de 60%.
Bah oui, exactement.
Sur les droits télé.
Bien sûr,
c'est un PSG stratosphérique. La Ligue 1 serait juste.
Bien sûr. Là, on voit juste avec le.
Comme la Belgique de seconde zone.
Voilà, exactement. Donc, juste avec le départ d'un Neymar et d'un Messi, bah, on voit que pour revendre les droits de la Ligue 1, c'est très, très compliqué.
On le sent tout de suite.
Bien sûr.
En Espagne, à la Liga, avec le départ de Benzema qui est parti en Arabie Saoudite, aujourd'hui, on le sent. Imagine demain le PSG des Qataris va disparaître, ça va être un grand problème.
Eh ben merci justement. Farid, on va le garder avec nous. On va revenir avec ses promis encore le Paris Saint-Germain, le football français et sans oublier Paris 2024. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM en compagnie d'Alison, de Vivien, sans oublier Yacine et Tariq. Et oui, voilà, on tient à le rappeler, David Saoul nous a quitté à l'âge de 80 ans. Hein, c'était l'acteur et notamment connu pour son rôle Dutch dans la série culte des années 70. Et oui, moi j'étais fan.
Starsky
Hutch, c'est ça, Yacine. Et oui, on rappelle, c'était le blanc, hein, parce que tout le monde me demande, oui, c'était le blanc. C'est toute une génération, même une grande ère de la grande époque de la télévision. Voilà.
Une époque où il y a encore des grands acteurs.
Eh ouais, des grands acteurs.
C'est ce qui est de plus en plus rare.
Eh ouais, un petit clin d'œil aussi, comme Alerta Malibu, avec David Hasselhoff, Mitch Buchanan, c'est ça?
Ah, on a tous couru comme lui avec les abdos sur la plage, non, etc.
Mitch Buchanan, c'est K2000.
Non, c'était Michael Knight.
Ah, Michael Knight.
Ouais, exactement.
Je suis très mauvais dans les séries.
Ah, ben t'inquiète pas, moi les DC. Les Marvel, on est là, on est en place. Et même concernant la télévision, le petit écran et le grand écran, il n'y a pas de problème.
D'ailleurs, anniversaire, si vu qu'on est dans une émission de sport, ils ont annoncé l'arrêt de Olivier Tom
après 43 ans.
Exactement.
Olivier Tom, hein, oui.
Ah, mais ça, c'est toute une époque.
C'est toute une époque. Oui, il fallait deux séries, voire trois épisodes pour arriver du centre.
C'est vrai.
Alison, ils s'en souviennent,
c'est vrai. Et deux autres épisodes pour savoir s'il allait marquer.
C'est ça. Ouais, le ralenti, c'est eux qui l'ont inventé. Hein.
Ah oui,
les Tom, il y avait mieux que la barre. Hein. Ah, c'était eux, ils étaient, ouais, avant-gardistes.
Et pourtant, c'était pas passionnant. On va pas tarder à arriver à ce genre de...
Yacine, c'était pas mal. Non, vraiment, c'était pas mal. Et oui, justement, il y a des personnes qui ont eu la chance de rencontrer Michael Knight, il y a eu des personnes qui ont la chance de rencontrer ben justement le fournisseur des Alébias du côté de Bouffalic, à qui nous pensons ce soir. Vraiment, je suis sérieux, c'est Yanis, à qui nous pensons dans le sud de la France, et toi, et Yacine, toujours avec moi. Il y a Neige qui est là, à côté de Vivien, on a aussi Tariq. Et
justement, Bilal, il faut, quand tu prononces Bouffalic, il faut préciser,
vas-y,
c'est là où elle est née, l'Orangina.
L'Orangina,
la Métidja, c'est là où on produit les meilleures mandarines du monde, les meilleures oranges du monde.
Ouais.
Voilà, mon cher Bilal. Je le dis avec un accent de Bouffalic.
Eh ben, tu as raison, Yacine, tu as raison, c'est vrai. Il y avait la maison Orangina.
Celui qui goûtera une mandarine,
la
clémentine de
Bouffalic. La mandarine et la clémentine.
Il s'en souviendra toute sa vie.
Eh ben voilà, ça c'est Yacine.
Je vous conseille d'y aller la goûter. Un voyage aller-retour Alger,
Tranquillement.
Paris, c'est
Alger la Blanche.
Une mandarine à 300 €, ça fait pas mal.
Ça fait cher la mandarine quand même.
Justement, on parlait de football, on parlait aussi à l'édition, c'est en Seine-Saint-Denis, dans le 93, en région parisienne. C'est les appartements du village olympique qui n'attirent pas les acheteurs. Peut-être moi, Tariq, hein, ou peut-être Vivien, on va essayer. Hein,
d'en prendre eux, avec
Yacine. Hein. Bon, en tout cas, oui, on n'a pas un engouement réel.
Ça n'attire pas les acheteurs, mais ça n'empêche pas l'État français, parce qu'il faut en parler. Je pense qu'ils ont donné une deadline aux étudiants d'évacuer
Exactement.
Les campus universitaires.
On est en plein dedans, justement.
C'est très, très grave ce qui se passe.
Alors, c'est grave.
On leur offre une compensation de 100 €. On a l'impression que ce sont des gamins de 5 ans à qui on offre un bonbon.
Mais c'est quoi, c'est 100
chocolat.
Euros et deux places,
juste,
ou une place.
C'est juste
honteux, Bilal.
Ouais.
C'est juste honteux.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est l'aveu d'un échec. Et en plus, après, on va parler du transport.
On va parler, justement, on est toujours avec Farid.
De promesses de Valérie Pécresse.
Oui, la présidente de la région Île-de-France.
Oui. Donc, c'est les impôts que Neymar peut-être, c'est avec un grand
point
d'interrogation, 224 millions d'euros, ça peut permettre de reloger beaucoup d'étudiants pendant 30 jours, mon cher Bilal.
Alison,
on avait parlé.
C'est le dernier dossier de l'émission.
L'État avait parlé de justement réquisitionner des logements parce qu'il n'y aurait pas assez de logements en Île-de-France pour accueillir les personnes qui qui viennent participer ou du moins voir les Jeux Olympiques, et c'est ce qui est en train de se faire. Là, on assiste à quelque chose de très grave, c'est-à-dire qu'on est en train de déloger les gens pour quelque chose de comment dire, pour un loisir, parce que qu'on se le dise, qu'il y ait des JO à la porte d'une dame qui a 4 enfants à nourrir, elle en a rien à faire. Qu'il y ait les JO un étudiant lui qui est en train de charbonner pour payer son année et qui est dans une résidence universitaire quasi insalubre et qui doit en plus de ça quitter les logements pour 5 € et un paquet de je ne sais quoi, ça aussi c'est très grave. On est en France, on est dans une très grande nation, et parfois, on a l'impression. On a l'impression d'être dans un état comme on aime bien dire. Je déteste ça, mais je vais l'utiliser cette expression du tiers monde.
Au tiers monde, ils l'ont jamais fait quand ils organisent des événements.
C'est pour ça que je dis que on parle du tiers monde, mais c'est une expression, c'est un lieu commun que je déteste employer. Mais c'est vraiment pour mettre en exergue, les choses. Là, on parle aussi des transports. Vous avez vu je prends un seul exemple. Il y a un match au Stade de France, peu importe le match, que ce soit de rugby, que ce soit de foot, peu importe l'événement, il y a une énorme influence. Vous avez vu l'état des transports ? La ligne B est saturée, la ligne 13 est saturée, le métro, ligne 13, c'est saturé. C'est-à-dire que si tu viens du travail, quand ces heures d'affluence, parce qu'ils rallongent un peu, par exemple, les transports lors de ces événements, c'est une catastrophe. En termes d'affluence, les Jeux Olympiques, c'est là où il y a la plus grande influence au monde.
Mais oui, plus que la Coupe du Monde. Merci de le rappeler.
C'est-à-dire que la France, on se voit plus beau que nous le sommes. Oui. On ne pouvait pas accueillir ces JO parce que la France, déjà, souffre en elle-même sans accueillir tout le monde. Oui. On se plaint de ne pas pouvoir accueillir du monde, les gens qui souffrent d'ailleurs, mais par contre, on veut chasser des Français pour accueillir des touristes. La France va bien. Voilà.
Ça y va à l'encontre du symbole de l'olympisme.
Totalement.
Qui est le sport pour tout le monde.
Totalement.
Aujourd'hui, les JO sont devenus un énorme business, c'est devenu un sport pour les riches, c'est les riches pour s'enrichir encore plus, et malheureusement, tous les médias ne jouent pas le jeu, tous les médias sont complices de cette mascarade, parce qu'à un moment donné, c'est... j'aime bien Mediapart, qui s'intéresse à tout ce qui se passe autour de ces Jeux Olympiques.
Ils se sont intéressés.
Et à un moment donné, peut-être appeler à un boycott total, comme ils l'ont fait à un moment donné pour boycotter la Coupe du Monde au Qatar, malheureusement.
Et ça va être fou. On a déjà des salariés d'entreprises aussi en France qui ont appelé à un boycott, à des grèves aussi durant les Jeux Olympiques.
Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait des médias qui relaient la parole, qui donnent la parole à tout le monde. À un moment donné, il faut que ces gens-là qui décident pour la majorité pas uniquement en France, parce que il y a beaucoup de monde qui rêverait, les Espagnols, les Italiens, les pays limitrophes, des jeunes Italiens, des jeunes Espagnols rêveraient de pouvoir aller assister à un match de n'importe quelle discipline des Jeux Olympiques. Quand ils vont aller sur Internet pour se dire la France elle est juste à côté, quand ils vont voir combien ça va leur coûter.
Oui, mais là tu parles des Espagnols, tu parles des Italiens.
Alors,
mais ceux qui sont exclus, c'est les Français
en premier.
Ouais, c'est les Français. On est exclu.
Alors, Tariq,
par rapport au tarif des transports, vous avez vu le ticket de métro, il va passer à 4 €.
Alors, c'était censé être gratuit.
La RATP est en train de changer de support. En gros, il y a plus de carnet de tickets de métro. C'est-à-dire, même si tu voulais faire un stock de carnet, c'est plus possible parce que maintenant le support, sur un pass.
Et
sur ce pass-là, tu peux recharger que deux, voire trois carnets de tickets grand maximum. Tu peux même pas faire de stock avant pour te dire tu les prends. Pendant les jours, tu puisses circuler, que ça soit le prix des places pour une compétition toute basique des qualifications, c'est hors de prix. Les Français, je me souviens quand on a eu la nouvelle qu'on allait accueillir les JO, j'étais content, mais plus le temps passe, j'arrive pas à avoir de positif sur le fait d'accueillir les Jeux Olympiques.
Et
les premiers exclus, que ça soit pour le logement, que ça soit pour les hôtels, que ça soit pour les compétitions, que ça soit pour les transports, que ça soit même pour la circulation en voiture, que ça soit même pour les personnes.
Pour la circulation tout court, parce qu'il y aura une espèce de.
Tu te rends compte, tu habites dans un certain quartier, tu devras justifier que tu habites là.
Exactement.
C'est incroyable.
Non, mais vous imaginez par exemple la petite grand-mère qui est toute seule, qui reçoit peut-être deux visites de son voisin ou de sa petite fille, etc. Elle devra justifier par un justificatif de domicile de la grand-mère qui devra aller la chercher sur Internet, ce qui est totalement fou, que je viens chercher ma grand-mère. Mais comment elle fait la petite mamie? Saint-Denis pour aller télécharger cette attestation sur internet.
C'est grave.
On a Farid.
C'est très, 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 très grave.
Farid 0 53 48 3000, l'auditeur. On revient à lui. Farid, c'est le jeu Paris 2024, hein.
Oui, bah, c'est quand même un grand événement. Malheureusement, je suis un petit peu comme tout le monde. Moi qui aime beaucoup Paris et je vis à la porte de Paris. Au niveau travaux, c'est un carnage, malheureusement.
Ouais.
Je connais un petit peu les projets aussi dans le ferroviaire aussi.
Alors, ouais.
Aujourd'hui, tout se mélange. Et c'est quand même dommage d'avoir tous ces travaux-là à tous les coins de Paris. Et je pense que les Parisiens, ils n'en peuvent plus. Maintenant, pour l'événement lui-même, je pense que ça va être quelque chose de grand. Je l'espère en tout cas. Et force à tous nos athlètes.
Ça va être grand pour les autres nations, Farid. Pour les autres nations, oui, ça va être grand, parce que l'équipe de France n'est pas prête.
L'équipe de France, dans quelle...
Globalement, l'équipe de France olympique n'est pas prête, n'est pas au standard. Le standard, quand on accueille les Jeux, c'est divisé par un top 5, ce qui est aujourd'hui, c'est vraiment hors de portée pour moi. Et hier, on avait un athlète centrafricain. J'ai le même débat hier. J'ai même dit que hier, l'Afrique, avec les qualités qu'a l'Afrique, on doit être beaucoup plus exigeant avec les équipes olympiques africaines. Je prends les grands pays comme même l'Algérie, le Maroc, on devrait être beaucoup plus exigeant avec le vivier qu'il y a. Moi je trouve que c'est pas assez. C'est pas assez, les fédérations font pas assez. Je me souviens, on avait même reçu le président de la Fédération algérienne de rugby ici dans Times Square, quelqu'un de très sympa, mais en termes de bilan, moi j'ai pas vu quelque chose sortir dans l'Algérie masculine ou féminine, donc c'est ça, on doit être nous tous beaucoup plus exigeants. Donc pour moi, non, c'est pas assez. Team USA, oui, Team USA, LeBron James.
Ils sont toujours au rendez-vous,
Team USA. Farid va faire. Ils vont faire leurs 3 semaines à Paris, ils vont visiter la Tour Eiffel, ils vont gagner beaucoup de médailles d'or.
Mais ils vont visiter, ils vont remporter des médailles.
Que ce soit la France ou les pays africains, ça va être très moyen.
Les Russes et les Chinois.
Donc, c'est pour ça que je dis que sportivement, Farid, non, là, ça va être une.
On n'est pas prêt.
On n'est pas prêt non plus, non.
Farid, il en pense quoi?
Au niveau gymnastique, Je vais vous couper.
Alors,
excusez-moi.
Moi, on va redonner la parole à Farid.
Je lance un appel à tous les Franciliens de créer, à la même période, créer des événements. Il faut appeler, comme on appelle la canne des quartiers. Aujourd'hui, il faut créer les jeux des quartiers.
Moi, tu veux faire. Il y a tout qui va.
On va faire. Périphérique, vous voyez les gros radars qui vont bien nous flasher quand on sera tout seul en voiture
et qu'on voudra faire les
malins à gauche, bam bam, un flash, ça veut dire quoi encore?
Ça serait de l'argent spécifique pour
exactement, de l'argent pour Darmanin. Valérie Pécresse qui a enfin avoué, comme si
de la région
on ne le savait pas, qu'on ne sera pas prêt pour le JO. Waouh, quelle révélation! Elle a besoin d'un communiqué de presse pour faire ça. Elle est magique quand même.
Ça aurait dû être le président de Paris 2024.
C'est n'importe quoi.
Ce sont les politiques. Il faut le dire, ce sont les politiques qui se nourrissent au jour d'aujourd'hui. Les populations sont endormies, tu comprends ? Ils se nourrissent, ils se gavent, ils ont des salaires de fous, ils vivent sur le dos de la société. Tu vas faire des enquêtes, tu vas chercher des politiques qui n'ont jamais travaillé de leur vie. Ils n'ont pas travaillé une journée de leur vie.
Ils sont hors sol, ils sont déconnectés.
Leur boulot, c'est de la politique. Ils sont là pour endormir les populations. Et aujourd'hui, et tant qu'on se tait, on est obligé d'accepter tout ce qui va nous arriver. Peut-être on va payer le ticket de métro à 10 euros d'ici 8 mois, au début
à 4 euros et quelques. Farid, on va terminer avec l'auditeur avant la fin de cette émission.
Non, mais je partage complètement ce que je viens d'entendre. Malheureusement, voilà, maintenant il faut faut passer au-dessus de ça. Je pense que Paris, c'est quand même une capitale.
Passer au-dessus,
monde,
la carte bleue, elle passe pas au-dessus, hein, Farid.
Farid, il faut arrêter avec ce slogan Paris, la capitale du monde. Ouais. Faut arrêter parce que ça n'a jamais été la capitale du monde, elle ne le sera jamais. Quand on compare Paris à Moscou, je pense que si tu descends, atterri à l'aéroport de Moscou, tu fais un petit tour à la place rouge, tu vas te rendre compte que Paris n'est pas le centre du monde.
Nos villes africaines n'auraient rien à envier. Béjaïa, Brazzaville, les capitales africaines n'auraient rien à envier. Même à Dakar, on est mieux qu'à Paris.
J'ai donné un exemple.
Tout simplement. Mais j'étais persuadé que ce serait un exemple africain pour le coup. Ouais. Ça me surprend.
C'est l'hiver.
Mais j'étais surpris pour le coup.
Non, mais c'est la vérité, Bilal. Hein, parce
oui,
que des fois, on a tendance à y aller là où il faut pas. Paris, comment on appelle ça, de l'égocentrisme, du ventrilisme, du roubzisme. Paris n'est pas le centre du monde, n'est pas la capitale du monde, Bilal. Moi je préfère Alger que Paris.
Faut juste qu'on s'en reste avec ce que Yacine et Farid ont dit. Moi je pense qu'ils sont pas invités de Paris 2024. Ils vont les laisser à la porte.
Je leur laisse ma place dès aujourd'hui.
Je suis désolé Farid, mais vous serez pas invité non plus avec ce que vous avez envoyé.
Est-ce que la scène sera prête d'ici là aussi? C'est la vraie question.
Jouba non plus, il sera pas invité.
De toutes les couleurs.
Farid peut-être un peu.
On a beaucoup de problèmes en ce moment.
L'insécurité malheureusement.
Et les pickpockets, et l'insécurité. Et les villages olympiques, on ne sait pas comment ils seront sécurisés. Ouais, et puis la Seine, on ne sait pas elle sera assez saine, justement pour le coup, pour pouvoir faire des épreuves.
Addison, c'est quoi le problème d'un pickpocket devant 224 millions détournés du fisc? Voilà, donc aujourd'hui, à un moment donné, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est le problème des pickpockets, on peut le résoudre facilement.
Yacine, demain, si t'es dans le métro et qu'on te vole ton porte-monnaie, tu seras embêté aussi.
Voilà. Ah ben voilà. Yacine nous aura fait rire, et ça, pour le plus grand plaisir des auditeurs et des auditrices de Beurre FM. Un grand merci à toi, Vivien. Un grand merci à Neige de nous avoir suivis avec Alison, sans oublier Yacine, et aussi Tariq. Un grand merci à l'auditeur, Farid, d'avoir été avec nous aussi. Il était assez sympa, Farid. La suite des programmes. Bon, ce vendredi soir, c'est Vanessa qui arrive. Vanessa, 21h, 23h. Un gros big up aussi, justement, au journaliste de la rédaction de Beurre FM, en la personne de Foudil. On se retrouve dès lundi soir. Bye bye et à très vite.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.